Immersion.
Un reportage de Radio Présence.
Mais comment faire pour être heureux ?
Vous allez entendre cette semaine une immersion un peu particulière. Dans le Lauragais, du côté de Fourquevaux, j'ai rencontré il y a quelque temps un homme passionné d'aviation, Pierre Suzonnier. Aujourd'hui, il nous raconte une histoire, celle d'un jeune aviateur toulousain qui, en 1927, aurait pour la première fois traversé l'Atlantique Sud sans escale. En marge de l'aventure de l'aéropostale où Toulouse jouait un rôle essentiel, de fougueux jeunes gens, aviateurs et mécaniciens, se lancent eux aussi dans la folle aventure de la conquête des airs. Exploits et drames se succèdent. Ces tentatives heureuses ou malheureuses, trop souvent occultées par la mémoire collective, restent encore quasiment inconnues. Pierre de Saint-Romand, un Toulousain qui passa son enfance entre l'hôtel Catel de la place Saint-Étienne à Toulouse et le château de Fourquevaux, est l'un de ceux-là. Jean-Pierre Suzonnier, esprit curieux et toujours en éveil, est quant à lui membre de l'Association des Toulousains de Toulouse, association qui a pour objet la défense et la protection du patrimoine de la région. Comment et pourquoi s'est-il intéressé au destin de Pierre de Saint-Romand ? Qu'a-t-il découvert de l'homme, de l'aviateur, de ses rêves, de ses tentatives et de ses exploits ? Je le retrouve devant le monument aux morts du village de Fourquevaux. Là, ou sur une stèle, on peut lire ces mots. À la mémoire du capitaine Pierre de Serre de Saint-Romand, pionnier de la traversée aérienne de l'Atlantique Sud sans escale, disparu avec ses compagnons en mai 1927.
Mais ce personnage est originaire de Fourquevaux. Sa famille était propriétaire du château. Et sur le monument aux morts, il y a une petite plaque où il est fait allusion à sa disparition accidentelle en 1927. Et le point de départ, le voilà. Donc je me suis intéressé à ce personnage. Pendant un certain temps, je n'ai pas trouvé beaucoup d'éléments à son sujet. Mais après, j'ai été en contact avec un de ses descendants, Madame de Saint-Firmin, qui, elle, a conservé tout un dossier sur cet ancêtre. Et c'est à partir de là que j'ai pu rassembler un certain nombre d'éléments sur cette personne. Alors, c'était les châtelains de Fourquevaux. Ils possédaient un hôtel particulier sur la place Saint-Étienne à Toulouse. Pierre de Saint-Romand a fait ses études à Toulouse, à l'Institut Stanislas, puis au Collège du Caouzou. Et ensuite, il a fait son service militaire dans l'infanterie, puis vers la fin de la guerre, il a voulu passer son brevet de pilote. Et il a obtenu son brevet de pilote en 1918, ce qui fait qu'il n'a pratiquement pas participé à des opérations aériennes pendant la guerre. Après la guerre, il est embauché dans un service de fabrication de l'aéronautique à Bordeaux. Puis en 1924, il est promu capitaine et entre comme directeur commercial des établissements d'aviation des camps. Et quelque temps plus tard, il demande un congé sans solde de plusieurs années, ceci afin de mettre sur pied un projet qui lui tient particulièrement à cœur. Et je pense que c'était quelqu'un qui avait effectivement un caractère bien trempé, qui a fait de solides études et qui laissait auprès de ses amis le souvenir de quelqu'un de très agréable, mais déjà très volontaire.
Avec la fin de la guerre de 14-18, l'aviation jusque-là essentiellement militaire s'engage dans une reconversion. Jean-Pierre Suzonnier.
Alors, il faut dire qu'après le premier conflit mondial, de nombreux avions militaires se trouvaient inutilisés, les pilotes étaient au chômage, et on va progressivement passer d'une aviation militaire à une aviation civile, parce qu'on pressent que le transport du courrier, le transport des passagers va devenir de plus en plus important. Il faut dire que l'aéropostale est en train de se développer. Toulouse a tenu une place particulièrement importante dans cette aventure. Mais pour créer cette ligne, il y avait trois obstacles réputés infranchissables. Le premier, c'était la traversée du Sahara. Le deuxième, c'était la traversée de l'océan Atlantique, 3200 km à traverser. Et le troisième, c'était la cordillère des Andes en Amérique du Sud. Et on va avoir plusieurs tentatives pour faire cette traversée de l'Atlantique Sud.
À Toulouse, en effet, Pierre-Georges Latécoère a créé une compagnie aérienne qui deviendra l'Aéropostale. Il réalise des vols vers l'Afrique. En 1919, il atterrit à Rabat et remet au résident général de la France au Maroc, le général Lyautey, un exemplaire du journal Le Temps paru la veille à Paris et un bouquet de violettes cueilli à Toulouse. C'est en 1923 que le Sahara est traversé pour la première fois en aéroplane par le capitaine Joseph Roig. Depuis le Maroc, il rejoint Dakar avec trois avions Breguet 14. Pour poursuivre en direction de l'Amérique du Sud, l'océan Atlantique n'a encore jamais été franchi par voie aérienne et les navires les plus rapides mettent 9 jours à rallier le continent sud-américain. La première traversée aérienne relève d'une incroyable épopée. Le 30 mars 1922, deux Portugais, Coutinho et Cabral, à bord d'un hydravion ferré 400, le Lusitania, partent de Lisbonne. Ils font escale aux Canaries, repartent et atteignent les îles du Cap-Vert. Ils reprennent l'air pour la grande traversée, mais une panne les oblige à amerrir près des îlots de São Pedro et de São Paulo. Un navire, venu à leur secours, les conduit jusqu'à l'île de Fernando de Noronha, à 550 km des côtes brésiliennes. Le Portugal dépêche alors un paquebot porteur d'un nouvel hydravion, à bord duquel ils poursuivent leur voyage. Mais un nouvel incident les oblige à amerrir et un nouvel appareil est acheminé par un croiseur portugais. Il leur permet d'achever leur périple et ils atteignent enfin le Brésil le 5 juin où ils reçoivent un accueil enthousiaste à la mesure de leur exploit. Certes, la traversée de 6000 km a été réussie, mais en 2 mois de temps et elle a nécessité 3 appareils. Une autre traversée est réalisée par un équipage espagnol commandé par Ramon Franco, le frère du général, avec un hydravion allemand baptisé Plus Ultra, devise de l'Espagne. Ils quittent Palos au sud de l'Espagne le 22 janvier 1926, atteignent les Canaries, repartent le 26, se posent aux îles du Cap-Vert, puis à l'île de Fernando de Noronha, avant d'atteindre Recife le 31. La traversée a duré 60 heures et 3 escales là aussi ont été nécessaires. D'autres tentatives suivront, mais tout en plusieurs jours et avec au moins 1 escale. Mais revenons à Pierre de Saint-Romand. Après la guerre, où sa conduite lui a valu la Croix de guerre avec 5 citations et la Légion d'honneur, il travaille dans l'aéronautique à Bordeaux, puis en tant que directeur commercial dans les établissements d'aviation Descamps. C'est alors qu'il demande un congé de 3 ans pour se consacrer à la préparation d'un ambitieux projet.
Alors, il crée un comité qu'il appelle le comité Paris-Amérique latine, PAL en abrégé, dont le siège est à Paris, boulevard de la Madeleine. Et son projet, c'est d'établir des liens entre l'Europe et l'Amérique du Sud, ne serait-ce que parce que beaucoup de Français sont exilés en Amérique du Sud ou se sont installés en Amérique du Sud, et je crois aussi que plusieurs membres de sa famille s'y sont installés. Une autre idée de Pierre de Saint-Romand, c'est que ce continent sud-américain est immense et pour l'instant il n'a aucune infrastructure aéronautique et il se doute que dans un si grand continent, les transports aériens peuvent jouer un rôle capital. Voilà le point de départ. Alors, ensuite, il va essayer de mener à bien ce projet de traverser l'Atlantique. Après avoir créé ce comité, il va choisir un avion. Cet avion, c'est un bimoteur qui s'appelle le Goliath F-60, qui est fourni par les établissements Forman. C'était un avion militaire. Et là, la première partie du projet, ça va être de le transformer de manière à pouvoir réaliser ce vol. Alors justement, Pierre de Saint-Romain n'était pas un pilote très chevronné, je crois qu'il n'avait que 250 heures de vol. Par contre, il s'associe avec un pilote confirmé qui s'appelait Marcel Mounérès, qui était originaire de Toulon et qui lui possédait les brevets de pilote d'avion, pilote d'hydravion, pilote de dirigeable. Et lui avait au moins un millier d'heures de vol. Et puis le troisième personnage de cette aventure, ça sera Ernest Matisse, qui est mécanicien.
Mais peu de temps avant le départ, Matisse renoncera à partir et il sera remplacé au pied levé par le jeune Jules Petit, âgé de 22 ans. Voilà donc ce meneur d'hommes, car Pierre de Saint-Romain est assurément un meneur d'hommes qui rassemble moyens humains et matériels. Reste la question du financement.
Alors là, j'avoue que je n'ai pas beaucoup d'éléments à ce sujet, mais je pense que le comité PAL, Paris Amérique Latine, a réuni des fonds qui leur ont permis de transformer l'avion de manière à réaliser ce raid.
Donc c'est de transformer un avion en hydravion, quelque chose d'habituel au milieu de ces années 20.
Alors, l'avantage de ce bimoteur, c'est qu'il pouvait très facilement se transformer, c'était un avion, mais se transformer en hydravion. Et la navigation, les services de la navigation aérienne n'autorisaient que des hydravions à traverser ou à tenter l'aventure parce que... On pensait que si, en cas d'avarie, un hydravion pouvait se poser plus facilement sur l'eau et pouvait repartir alors qu'un avion ne le pouvait pas.
Au printemps 1927, l'appareil quitte donc Paris et atterrit sur la base de Distre où il est transformé en hydravion.
Voilà, alors donc au printemps, on va dire 1927, l'avion est préparé par les établissements Farman. Il va s'envoler de Paris et se poser sur la base d'Istre, en Provence. Là, on va le transformer en hydravion sur l'étang de Berre. Et après, le projet est de rallier Saint-Louis du Sénégal en Afrique occidentale, et avec une escale à Casablanca. Mais cette escale se passe assez mal parce que le port est occupé par de nombreux navires et l'hydravion se pose en pleine mer, mais il y a des avaries à ce moment-là et on le répare à Casablanca. Et à ce moment-là, ils décident tous les trois de le transformer en avion. L'avantage d'avoir un avion plutôt qu'un hydravion, c'est que l'avion est plus léger et permet donc d'embarquer davantage de carburant. Mais le problème, c'est que les services de la navigation aérienne n'autorisent pas la traversée de l'Atlantique par un avion. Et Pierre de Saint-Romain et ses équipiers vont passer outre, si ce n'est que Ernest Matisse, à ce moment-là, va dire « moi j'abandonne le projet ». On ne connaît pas exactement la raison, soit il n'était pas d'accord avec les deux autres, soit il s'était assuré pour cette traversée, et dans la mesure où l'avion l'hydravion devenait un avion, peut-être que son contrat d'assurance n'était plus valable. Et du coup, il a renoncé à ce projet. Et au pied levé, il a été remplacé par un jeune militaire qui venait d'être démobilisé, qui s'appelait Petit. Donc, l'avion est prêt, arrive à Saint-Louis du Sénégal et va pouvoir faire le grand saut. Une réception est d'ailleurs organisée par le cercle militaire en leur honneur, quelques jours avant leur départ.
Alors que tout est prêt pour la traversée, l'équipage reçoit un message du service de navigation aérienne.
Voilà, alors donc au petit matin du 5 mai, c'est un jeudi, à 6h30, eh bien, l'avion est prêt au décollage. Il pèse 7,3 tonnes. Il embarque 4500 litres de carburant, 300 litres d'huile. Ils estiment que la durée du vol va être de 22 heures. Et la quantité de carburant embarqué leur permet d'avoir une autonomie d'environ 28 heures. Donc ils quittent le continent, c'est Mounerès qui est aux commandes. Le contact avec le sol se fait par radio, sur onde courte, et le Goliath est aperçu survolant la ville de Dakar et piquant droit vers l'océan. Plusieurs contacts radio, au moins trois, seront établis avec le sol, et puis après, plus rien. Donc si vous voulez, d'après le plan de vol, il devait arriver vers 1h30, heure locale. À cette heure-là, il faisait encore nuit en Amérique du Sud, mais il faut savoir qu'il n'y avait évidemment aucun terrain d'atterrissage qui était prévu au Brésil, et des recherches sont entamées dès qu'on estime qu'ils ont pu arriver à proximité des côtes d'Amérique du Sud. Alors ce sont des navires brésiliens, soit des navires militaires, soit des navires civils. La France, assez curieusement, ne participe absolument pas aux recherches. Et voilà, les jours passent, on explore. Alors on pense qu'ils n'ont pas réussi à atteindre les côtes américaines et qu'ils se sont peut-être perdus près d'atolls qui sont à proximité du continent, l'île de Fernando de Noronha ou les îlots Saint-Pierre et Saint-Paul. C'est dans cette région-là qu'on les cherche, mais on ne trouve rien, aucun débris, aucune tache d'huile à la surface de l'océan. Et au fur et à mesure que les jours passent, les chances de les retrouver vivants s'amenuisent et on finit par perdre espoir.
Et puis c'est alors que survient le coup de théâtre.
Et alors, un mois et demi plus tard, survient un coup de théâtre, effectivement, des pêcheurs brésiliens, bien loin du lieu où était prévu leur arrivée sur le continent américain, trouvent un petit radeau fait d'un morceau d'aile, des deux-roues, de tenders qui composaient le train d'atterrissage. Ils essaient de le remorquer vers la côte, mais la mer est mauvaise et ont peur de ne pas pouvoir le faire et récupèrent quelques morceaux de ce radeau et le ramènent à terre. Aussitôt, mais évidemment, à bord de ce radeau, il n'y a personne d'autre. Et aussitôt, les établissements Farman dépêchent un mécanicien qui connaît très bien l'avion pour identifier les vestiges et confirme bien qu'il s'agit d'un avion Farman, qu'il s'agit bien de l'avion de Pierre de Saint-Romain. Sur les roues sont marquées la date même de la fabrication des pneus. Et voilà. Et d'après cet homme, eh bien, cela prouve que l'avion a correctement atterri, sinon le train d'atterrissage aurait été abîmé. Et s'ils ont correctement atterri, c'est forcément sur la terre ferme. Mais ce qui s'est probablement passé, c'est que dans la région présumée de leur atterrissage, il n'y a que les plages où l'atterrissage puisse se faire. Et à certains endroits, ces plages sont bordées par des hautes falaises de 20 à 40 mètres qui sont pratiquement infranchissables. Et si l'atterrissage s'est fait à marée basse, ces plages sont souvent submergées à marée haute et probablement, après avoir atterri de manière correcte, Pierre de Saint-Romain et ses deux équipiers n'ont pas réussi à s'échapper et ont essayé de dériver avec ce radeau, soit ont lancé ce radeau comme une bouteille à la mer pour signaler leur présence. Mais ce radeau a dérivé sur plusieurs centaines de kilomètres pendant, je l'ai dit, un mois et demi, et on l'a retrouvé très loin du lieu présumé de l'atterrissage. On n'a jamais retrouvé aucune trace, ni de l'avion, ni de l'équipage. Alors, c'est le premier équipage qui a réussi à traverser l'Atlantique Sud sans escale. Il y avait eu auparavant au moins 5 tentatives de traverser de l'Atlantique Sud qui avaient réussi, mmais avec plusieurs escales et souvent même en utilisant plusieurs avions.
Mais alors pourquoi cet oubli ?
Ben, je pense que l'oubli est lié au fait que les autorités aéronavales n'avaient pas donné leur accord à cette traversée, puisqu'ils avaient refusé que la traversée se fasse en avion. Et voilà. Bon. Faut dire aussi que l'actualité aéronautique était très chargée à l'époque. Voilà, quelques jours après le départ de Pierre de Saint-Romain, disparaissait l'avion de Ningesser et Colli, l'oiseau blanc, qui avait décollé du Bourget en direction de New York, et ces deux aviateurs, Ningesser et Colli, étaient beaucoup plus célèbres que Pierre de Saint-Romain. Quelques temps plus tard, le 21 mai, c'est Charles Lindbergh qui lui rallie deux capitales emblématiques. Il part de New York et atterrit à Paris sans escale. Donc autant d'événements qui font que l'aventure de Pierre de Saint-Romain est passée un peu inaperçue et a été oubliée compte tenu de l'actualité aéronautique très intense qu'il y avait à cette époque-là.
Lui et son équipage qui ont ouvert la route de l'Atlantique au Sud. Est-ce qu'il y a un juste retour de l'histoire aujourd'hui ? Est-ce que son nom à nouveau est remis, je ne vais pas dire en tête d'affiche, parce que est-ce qu'on en parle davantage ? Est-ce qu'il est réhabilité ? Enfin, où est-ce qu'on se souvient depuis d'abord ?
Pas tellement, parce qu'en 1977, il y a eu le des fêtes pour le cinquantenaire de ces traversées que j'évoquais à l'instant. Et on a encore une fois oublié Pierre de Saint-Romain.
On n'a jamais retrouvé la trace de l'équipage ni celle de son avion. Pourtant, Jean-Pierre Suzoni est bien certain que c'est cet équipage-là qui a réussi pour la première fois la traversée de l'Atlantique au Sud sans escale.